Chapitre 17. Le fleuve du désert des pluies. L'air matinal était doux et frais sur le visage d'Althéa. Parangon avançait tranquillement avec le courant du fleuve. Elle devinait que Semoy était à la barre. C'était surtout parce qu'il aimait bien ce poste, en fait, car son habileté n'y était pas indispensable. Cette partie du fleuve était aussi paisible que le pont de Parangon. Une grande partie des matelots avaient débarqué à Terrilville. D'autres étaient demeurés jusqu'à Troisnousses où ils avaient trouvé de l'embauche comme ouvriers. En quittant Troisnousses, Brachen, pas plus qu'Althéa, n'avait regretté d'avoir un effectif réduit. On aurait déjà suffisamment de mal à payer ceux qui restaient. Leur mission consistait à rentrer à Terrilville où un chargement de pierres les attendait. Althéa avait dans l'idée que la pierre avait été récupérée sur les propriétés détruites des nouveaux marchands. On l'utiliserait pour renforcer les berges où les dragons finiraient par éclore. Si le dragon était doué pour procurer du travail aux vivnefs, il l'était beaucoup moins en revanche pour dénicher de quoi payer leurs équipages. Althéa chassa ses soucis irritants. Elle adopta un état d'esprit résolument optimiste. Tant qu'elle ne réfléchissait pas trop, elle pouvait se persuader que tout allait bien. Elle traversa le tillac et grimpa au gaillard d'avant.
« Bonjour !»
fit-elle à la figure de proue. Elle regarda autour d'elle en s'étirant. « Chaque jour, je me dis que cette jungle ne peut pas être plus verte, et chaque matin, je me réveille en découvrant que je me suis trompée. » Parangon ne répondit pas, mais Ambre déclara au-dessus du bord « Le printemps, une saison étonnante !» Althéa s'approcha de la lisse et baissa les yeux vers elle.
« Si tu tombes dans ce fleuve, tu vas le regretter !»
prévint-elle.
« On aura beau te repêcher à toute vitesse, ça piquera, partout !»«
Je ne vais pas tomber !» repartit Ambre. Parangon la tenait dans sa paume. Elle était assise, jambes pendantes, avec un outil en main.
« Qu'est-ce que tu fais ?»
demanda Althéa avec curiosité.
« Je croyais que c'était fini. »«
C'est fini. C'est juste une décoration. Des ornementations et autres, sur le manche de sa hache et son harnais de combat. »«
Que sculptes-tu ?»«
Des cerfs qui chargent. » répondit Ambre timidement. Elle rengaina avec brusquerie ses outils. « Remonte-moi, s'il te plaît. » Sans un mot, la figure de proue la remit sur le pont. Le fleuve était une vaste route grise qui se déroulait devant eux. La forêt touffue du désert des pluies apparaissait à tribord, tandis qu'à bâbord, les eaux larges s'étendaient loin jusqu'à une verte muraille végétale. Althéa avala une grande goulée d'air frais qui sentait l'eau du fleuve et la vie foisonnante des plantes. Des oiseaux invisibles pépiaient dans les arbres. Sur les lianes qui enguirlandaient les troncs gigantesques pointaient de gros bourgeons violets. Une grande colonne d'insectes dansait dans le soleil et la lumière jouait sur leurs myriades de petites ailes. Althéa fit la grimace devant ce spectacle scintillant.
« Ma parole, toutes ces bestioles ont passé la nuit dans notre cabine. »
« Il y en avait au moins une dans la mienne, » dit Ambre. « Elle a bourdonné à mon oreille une grande partie de la nuit. »«
Je serai contente de revoir l'eau salée, » fit Althéa. « Et toi, Parangon ?»«
Ce sera toujours assez tôt, »
répondit le navire distrait. Althéa leva un sourcil vers Ambre. Le charpentier du navire haussa les épaules. Au cours de ces deux derniers jours, le navire avait pris un air préoccupé. Althéa était toute disposée à lui laisser le temps et l'espace qu'il lui fallait. Ce retour au pays retardé depuis des lustres devait être une expérience déchirante et étrange pour lui. Elle n'était ni serpent ni dragon, mais elle avait été consternée et désolée par les pertes quotidiennes qu'avaient subies les serpents durant leur voyage vers le nord. Elle avait aussi été horrifiée de les voir se nourrir de leur mort, aussi utile que fût cette pratique puisqu'elle leur procurait de la nourriture et des souvenirs. La présence tournoyante de Tintaglia les avait protégés des vaisseaux chalcédiens. il n'avait été directement provoqué qu'à deux reprises. Il y avait eu un bref combat auquel Tintaglia avait rapidement mis fin en revenant pour chasser le navire ennemi. Le second affrontement s'était achevé quand celle qui se souvient avait surgi de l'abîme pour asperger le navire chalcédien de son venin. C'est sa mort, songeait Althea, qui avait le plus affecté Parangon. Le serpent infirme s'était décharné peu à peu, mais avait continué vaillamment sa migration. Au contraire de nombreux autres, il avait atteint l'embouchure du fleuve. Le voyage en amont contre le courant s'était révélé trop éprouvant pour lui. Un matin, il l'avait découvert inerte, enveloppé autour de la chaîne d'ancre de Parangon. Beaucoup avaient péri dans les eaux acides du fleuve. Ils étaient exténués, meurtris, et leurs blessures bénignes s'étaient transformées en plaies béantes sous l'assaut de l'eau grise. Ni le navire, ni Tintaglia ne pouvaient leur faciliter cette dernière et longue étape. 129 serpents étaient entrés dans l'embouchure avec eux. Lorsque le nœud eut atteint l'écluse que les ouvriers du désert des pluies avaient construite, leur nombre s'était réduit à 93. Les grossiers enclos de bois qui communiquaient entre eux freinaient et dérivaient les eaux en augmentant le débit juste assez pour que les serpents puissent se traîner en amont. Le talent des constructeurs des pluies s'était conjugué aux bras robustes des marchands et des tatoués pour créer un chenal artificiel qui conduisait aux anciennes berges de boue. Tintaglia avait supervisé l'extraction de la boue striée d'argent presque aussi consistante que l'argile. Puis, on avait construit un autre enclos de bois, et les ouvriers avaient peiné de longues heures durant, dans le froid, pour mélanger cette boue épaisse à l'eau du fleuve jusqu'à ce que Tintaglia soit satisfaite de sa matière. Alors que les serpents à bout de force réussissaient à se hisser sur les rives basses du fleuve, les ouvriers avaient transporté des tonneaux de boue clapotantes et en avaient baigné les futurs dragons. Parangon avait cruellement souffert de ne pouvoir assister à la nidification. Il était impossible à un grand navire comme lui de pénétrer dans ces eaux peu profondes. Althea y était allée à sa place. Il lui échut en partage d'apprendre à la vive nef que seulement 79 serpents avaient réussi à compléter leur cocon. Les autres étaient morts, leur corps était trop décharné pour sécréter les substances particulières qui s'agrégeaient à la boue, la transformaient en longs fils dont ils s'entouraient. À chaque mort, Tintaglia rugissait de chagrin, puis elle partageait les corps entre les autres pour qu'ils s'en nourrissent. En dépit de son dégoût extrême, Althea pensait que c'était aussi bien. Le dragon lui-même ne paraissait guère plus vaillant que les serpents. Il refusait de prendre le temps de chasser tant que la nidification était en cours. En l'espace de quelques jours, sa peau étincelante flottait et faisait des plis, bien que les ouvriers, saisis de pitié, lui aient apporté des oiseaux et du petit gibier. Cette générosité le maintenait tout juste en vie, mais ne suffisait pas à son développement. Un autre travail suivit la nidification. Les serpents enveloppés de boue devaient être protégés des déluges de l'hiver jusqu'à ce que leur fourreau ait séché et durci. Enfin, Tintaglia annonça qu'elle était satisfaite. À présent, les immenses cocons reposaient sur la rive boueuse comme des cosses géantes cachées sous des amas de feuilles, de rameaux et de branches. Le dragon étincelait à nouveau depuis qu'il avait repris sa chasse quotidienne. Certaines nuits, il revenait se reposer près des cocons, mais il comptait de plus en plus sur les humains pour les surveiller depuis leur maison dans les arbres. Fidèle à sa parole, Tintaglia patrouillait le long du fleuve jusqu'à l'embouchure et survolait la côte des rivages maudits. Elle continuait d'évoquer le retour d'autres serpents. Althea devinait que cet espoir était le véritable motif de son guet vigilant de la côte. Elle avait même fait allusion à la possibilité d'envoyer des vives nefs loin vers le sud pour aller chercher les survivants égarés. Althea considérait que son attitude était à la mesure de son angoisse devant les pertes subies. De la bouche de Selden, elle avait appris que tous les cocons n'écloraient pas. Il y avait toujours un certain pourcentage de mortalité à cette étape du développement d'un dragon. Mais affaibli comme il l'était, il mourait en plus grand nombre que la norme. Selden paraissait les pleurer autant que Tintaglia. Pourtant, il avait du mal à expliquer comment il savait qui avait péri dans le cocon. Elle connaissait mal son neveu. Durant les semaines qu'elle avait passées à Troisnous et sur le site de Cassaric, elle l'avait trouvé de plus en plus étrange. Il ne s'agissait pas seulement de ses changements physiques. Par moments, il n'était plus un petit garçon. Sa voix, son vocabulaire, quand il s'adressait au dragon, semblait appartenir à un étranger plus âgé. La seule fois où il ressembla au Selden dont elle avait le souvenir, ce fut quand il revint, sale et fatigué, d'une journée d'exploration avec Bendir. Ils avaient disposé tout autour de la jungle marécageuse, derrière la plage au cocon, des bandes de tissus de couleurs vives attachées à des pieux ou à des troncs d'arbres. Les couleurs représentaient une sorte de code, incompréhensible pour Altea, destiné à diriger les futures excavations. Pendant les repas, Selden et Bendir en discutaient avec gravité et faisaient des projets de fouilles pour l'été. Elle ne reconnaissait plus son neveu, mais elle était sûre d'une chose. Selden Vestrit était enthousiasmée par sa nouvelle vie. Elle s'en réjouissait. Elle était étonnée que Kefria l'eût laissé partir. Peut-être sa sœur aînée avait-elle fini par comprendre que la vie était faite pour être vécue, et non pour être thésaurisée en prévision d'un improbable lendemain. Altea respira profondément l'air printanier, le savourant avec sa liberté.
« Où est Brachen ?»
demanda Ambre. Altea gémit.
« En train de torturer Cliff. »
Ambre sourit.
« Un jour, Cliff le remerciera d'avoir tenu à ce qu'il apprenne à lire. »
« Peut-être, mais ce matin, ça paraît peu probable. J'ai dû m'en aller avant de me mettre en colère contre deux.
Cliff passe plus de temps à expliquer pourquoi il ne peut pas étudier qu'à essayer de s'y résoudre. Brachen ne cède pas d'un pouce. Le gamin est vif quand il s'agit de navigation. Il devrait être capable de retenir ses lettres. »«
Il y arrivera, »
décréta Brachen en les rejoignant. Il repoussa ses cheveux en arrière d'une main maculée d'encre. Il avait plus l'air d'un tuteur dépité que d'un capitaine.
« Je lui ai donné 3 pages à copier et je l'ai laissé. Je l'ai prévenu que s'il s'appliquait, il serait plus vite libéré que s'il bâclait. »«
Là !»
La voix de Parangon éclata. Son cri soudain fit envoler un petit groupe d'oiseaux colorés vers la forêt. Il leva sa grande main vers l'avant pour désigner les arbres de haut en bas.
« Là, c'est ça !»
Il se pencha et fit tanguer le navire.
« C'est mal, à tribord toute !»«
On va s'échouer !»
s'écria Brachen consterné.
Semoy n'avait pas discuté l'ordre. Le navire s'élança soudain vers les arbres en se balançant.
« Le fond est boueux !»
répondit calmement Parangon.
« Tu me tireras de là assez facilement quand il le faudra. »
Altea empoigna la lisse, mais au lieu de toucher le fond, Parangon avait trouvé un chenal profond bien qu'étroit dans une eau presque morte. Peut-être à la saison des pluies était-ce l'un des nombreux cours d'eau qui alimentaient le fleuve. Maintenant, il était réduit à un doigt d'eau calme qui serpentait sous les arbres. Et ils quittèrent le chenal principal. Néanmoins, ils n'allèrent pas loin car le gréement commença à se prendre dans les hautes branches.
« Tu es en train d'abîmer ton gréement !»
prévint Brachen, mais le navire continua à s'enfoncer résolument dans le fouillis inextricable. Altea échangea une grimace inquiète avec Brachen. Il secoua la tête mais garda le silence. Parangon était un être indépendant. Il avait le droit d'aller où il voulait. Gouverner cette vive nef, c'était un nouveau défi. Il fallait respecter sa volonté et lui supposer un certain jugement. Même si cela impliquait de le laisser s'échouer dans un lagon en pleine jungle. Il y eut des hurlements de surprise de la part de quelques matelots, mais Semoy restait ferme à la barre. Des feuilles et des branches pleuvaient sur eux, des oiseaux effarouchés piaillaient et s'envolaient. Le navire mollit, puis s'arrêta.
« Nous y sommes !»
annonça Parangon tout excité.
« Ça, tu l'as dit !»
convint Brachen aigrement en levant les yeux vers les branches enchevêtrées.
« Le trésor d'Igroth !»
souffla Ambre. Ils se retournèrent vers elle. Son regard suivait la direction qu'indiquait le doigt de Parangon. Altea ne distingua qu'une masse sombre là-haut dans de vieux arbres. La figure de proue se tourna vers eux avec un sourire triomphant.
« C'est elle qui a deviné la première, et elle a deviné juste !»
déclara-t-il comme s'ils étaient en train de jouer.
Presque tout l'équipage était sur le pont, les yeux levés vers l'endroit désigné par Parangon. L'étoile infamante d'Ygrotte avait été creusée profondément dans l'écorce d'un arbre tout proche. Le temps avait agrandi la marque.
« La plus grosse pêche d'Ygrotte !»
dit Parangon qui remontait dans le passé.
« C'était quand il a pris un chargement de trésors destiné au gouverneur de Jamelia. C'était à l'époque où le gouvernorat envoyait chaque année un navire pour collecter le tribut que lui devaient les colonies éloignées. Terrilville y avait ajouté des marchandises du désert des pluies, un joli butin. Mais en route vers Jamelia, la gabarre a disparu. On ne l'a plus jamais revue.
C'était avant ma naissance, mais j'en ai entendu parler, dit Brashen. On a prétendu que c'était le plus riche chargement qui ait jamais quitté Troynous. Des salles de trésors avaient été découvertes. Tout a été perdu.
Caché,
le reprit Parangon. Il regarda de nouveau les arbres immenses. Althea plissa les yeux vers la masse sombre, haut perchée, entourée de lianes et de plantes grimpantes. Elle s'étendait sur les branches vives de plusieurs arbres. La voix de Parangon était triomphante.
« Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Ygrotte voulait une vive nef ? C'était pour avoir un endroit où amasser son trésor, un endroit que les pirates ordinaires ne pourraient jamais atteindre. Même si un membre de son équipage bavardait, les voleurs auraient besoin d'une vive nef pour le récupérer. Il l'a mis là, et ses gars ont fait des voyages de mon gréement jusqu'aux arbres. Ils y ont construit une plateforme, y ont hissé le trésor. Ygrotte pensait qu'il serait pour toujours en sûreté. »
Brashen émit un son grave. Il y avait de la fureur dans sa voix quand il demanda «
Il t'a aveuglé avant ou après avoir choisi l'endroit ?»
La figure de proue ne tressaillit pas à la question.
« Après, »
dit la vive nef à mi-voix,
« il ne m'a jamais fait confiance. À juste titre, j'ai perdu le compte des fois où j'ai tenté de le tuer. Il m'a aveuglé de façon que je ne puis jamais retrouver le chemin sans lui. »
Il se tourna vers l'équipage impressionné et il adressa à Ambre un grand clin d'œil.
« Il n'a jamais pensé qu'on pouvait me sculpter à nouveau. » « Moi non plus d'ailleurs à cette époque-là. Pourtant me voilà, seul survivant de ce maudit équipage. C'est à moi maintenant, et en conséquence, c'est à vous. »
Un silence stupéfait accueillit ces paroles. Personne ne parlait ni ne bougeait. La figure de proue haussa les sourcils d'un air interrogateur.
« Personne ne veut le récupérer pour nous ?»
demanda-t-il avec ironie. Le plus facile fut d'y jeter le premier coup d'œil. Le plus long fut de fixer les passerelles et les palans à travers les arbres pour transporter le chargement jusqu'au pont de Parangon. Malgré le labeur éreintant, personne ne se plaignit.
« Quant à Cliff, on croirait que Parangon avait combiné ça tout exprès pour le tirer de ses leçons, »
fit remarquer Brashen. Comme il était le grimpeur le plus agile du navire, le gamin avait été libéré de ses leçons.
« S'il continue à sourire comme ça, la moitié de sa tête va sauter !»
renchérit Althea. Elle se dévissa le cou pour voir Cliff qui revenait vers le navire avec un gros sac rebondissant sur le dos. Ni les serpents, ni les essaims d'insectes n'avaient rabattu l'enthousiasme du gamin, ravi d'effectuer ses allers-retours d'équilibriste entre le navire et la passerelle.
« Je voudrais qu'il soit un peu plus prudent, »
dit-elle inquiète. Althea, Brashen et quelques hommes d'équipage se tenaient sur une plateforme de plusieurs strates en rondins. Avec le temps, Les lianes vigoureuses avaient renforcé l'ancienne construction en l'incorporant littéralement dans leur système de vrilles et de racines aériennes. Les coffres et les tonneaux qui contenaient le magot d'Igrotte n'étaient pas en aussi bon état. Une grande partie du travail de la journée avait consisté à emballer dans des caisses et des barils de vivres vides le trésor répandu. La variété du butin les stupéfia. Ils avaient découvert des pièces jamélienes et de l'orfèvrerie d'argent, preuve qu'Igrotte avait accumulé ici plus que le trésor du désert des pluies. Certaines choses n'avaient pas résisté. Des vestiges de tapisserie et de tapis moisis, des tas d'anneaux de fer sur des amas de cuir pourri qui avaient été autrefois des gilets de combat, mais ce qui restait excédait de loin ce qui était détérioré. Brachen avait vu des coupes en pierres précieuses, des épées extraordinaires qui luisaient encore, bien effilées quand on les retirait de leur fourreau filigrané, des colliers et des couronnes, des statues et des vases, des tabliers de jeu en ivoire et en marbre, avec des pièces en cristal étincelant, et d'autres objets qu'il ne pouvait pas même identifier. Et il y en avait aussi d'autres plus modestes, depuis des plateaux et des tasses délicates, jusqu'à des peignes sculptées et des épingles bijoux. Parmi les objets du désert des pluies, on trouvait une paire de dragons délicatement ouvragés, avec des écailles en pierres précieuses. Et une famille de poupées au visage écailleux. Brachen était en train de les emballer soigneusement dans le panier à oignons qui provenait de la coquerie.
« Je crois que ce sont des instruments de musique ou ce qu'il en reste, » dit Althea.
Il se retourna en étirant le dos pour voir ce qu'elle était en train de faire. À genoux, elle retirait des objets d'un grand coffre qui avait éclaté. Elle souleva des chaînes de cristal qui tintaient et sonnaient doucement l'une contre l'autre alors qu'elle les exhumait de leur tombe. Elle se retourna en souriant pour les montrer. Elle avait oublié que ses cheveux étaient lestés d'une résille sertie de joyaux. Le mouvement accrocha un rayon de soleil et fit scintiller sa chevelure. Il fut ébloui. Son cœur débordait.
« Brachen !»
dit-elle d'une voix plaintive.
Il s'aperçut qu'il la dévisageait toujours. Sans un mot, il se leva et s'approcha d'elle. Il la releva et l'embrassa sans se soucier des sourires indulgents de deux matelots qui chargeaient à pleine main dans de gros sacs de toile des pièces éparpillées. Il la serra dans ses bras, presque étonné de pouvoir le faire. Il la tira tout contre lui.
« Ne t'éloigne jamais de moi. » dit-il d'une voix étouffée dans ses cheveux. Elle tourna la tête pour lui adresser un sourire épanoui.
« Pourquoi quitterais-je un homme aussi riche ? » répliqua-t-elle pour le taquiner. Elle posa les mains sur sa poitrine et le repoussa doucement.
« Je savais bien que tu n'en voulais qu'à ma fortune, »
répondit-il en la lâchant. Il retint un soupir.
Elle voulait toujours se dégager avant qu'il ne soit disposé à la lâcher. C'était sans doute sa nature indépendante.
Il refusait de se dire qu'elle se lassait de lui.
Pourtant, elle n'avait pas semblé contrariée outre mesure quand il avait été dans l'incapacité d'arranger leur mariage à la salle du conseil. Peut-être ne souhaitait-elle pas se lier à lui de façon permanente? Puis il se reprocha ses doutes persistants et ses griefs. Althea était toujours à ses côtés. C'était plus que ce qu'il avait jamais eu dans sa vie, et cela avait davantage de valeur à ses yeux que cet incroyable amas de trésors. Il regarda autour de lui, puis leva les yeux vers les constructions similaires dans les deux arbres voisins.
« Ce butin va remplir les cales de Parangon. Igrotte l'a amené ici alourdi de trésors, et il repartira de même. J'essaie d'imaginer ce que cela changera pour nous, et je n'y arrive pas. Je suis saisi d'émerveillement devant chacune de ces pièces. »
Althea hocha la tête.
Je ne parviens pas à faire le rapport avec moi. Je pense surtout à la façon dont cela affectera les autres, ma famille.
Je peux aider ma mère à restaurer notre maison. Kefria n'aura plus besoin de se tracasser au sujet des finances de la famille.
Brachen eut un large sourire.
Mes projets concernent surtout Parangon. Des fenêtres neuves, un gréement neuf, les services d'un bon voilier.
Et puis... « Quelque chose pour nous ?
Si on entreprenait un voyage aux îles des épices, Un voyage lent, à la découverte, sans contrainte de temps, sans nécessité de faire du profit. Je voudrais revoir les ports que nous avons visités du temps que ton père était maître sur Vivacia. » Il scruta attentivement son visage avant d'ajouter
« Peut-être pourrions-nous retrouver Yéma et Vivacia quelque part ? Savoir comment ils vont tous les deux ?»
Il la vit réfléchir.
Pour Althea, une visite au port de l'extrême sud serait un retour à ses voyages d'enfance. Peut-être perdrait-elle là-bas un peu du regret permanent qui l'assombrissait ?
Et si elle revoyait Yéma et Vivacia, peut-être exorciserait-elle quelques fantômes ? Si elle constatait que son navire était satisfait, qu'il était en bonne main, cela allégerait-il le fardeau qui lui pesait sur le cœur?
Il s'interdisait de redouter cette rencontre. Il avait beau avoir du mal à l'admettre, s'il ne pouvait dissiper bientôt sa mélancolie, il voudrait peut-être mieux la laisser s'en aller. On ne pouvait pas dire qu'elle ne riait pas, ne souriait pas, au contraire.
Mais ses sourires, son rire se perdaient toujours trop tôt, dans un silence qui l'excluait.
« J'aimerais bien, » avoua-t-elle, le rappelant à lui-même.
« Si on pouvait convaincre Parangon, on rechercherait les serpents de Tintaglia par la même occasion ?»«
Bien, » dit-il avec un entrain factice. « Alors c'est ce que nous allons faire. » Il respira profondément et leva les yeux. Le jour printanier touchait à sa fin. Au travers des faîtes entrelacées des arbres, il entrevoyait des nuages orageux. Il se pouvait que l'hiver fasse un bref retour cette nuit.
« Rentrons tous au navire, » décida-t-il. « La nuit tombe vite. Inutile de risquer de perdre un homme pour emporter un trésor ce soir. »
Althea acquiesça de la tête.
« Je voudrais vérifier l'arrimage de toute façon. »
Elle se tourna vers les autres.
« Dernier chargement, les gars. » Demain, il sera bien temps de finir tout ça.
Elle sortit sur le pont dans l'obscurité en portant une lanterne. Parangon ne se retourna pas pour voir qui arrivait. Il reconnut le palan d'Ambre. Elle venait souvent le voir la nuit. Ils avaient eu beaucoup de conversations nocturnes. Ils avaient aussi partagé de nombreux silences, se contentant de ne pas troubler les bruits des oiseaux de nuit et du fleuve. D'habitude, ses mains sur la lisse lui communiquaient la paix. Ce soir, elle tenait la lanterne par son crochet et déposa quelque chose sur le pont avant de s'appuyer au garde-corps.
« Quelle belle nuit, n'est-ce pas ?»«
Oui, mais elle ne va pas rester belle longtemps pour toi. La lanterne va attirer sur toi tous les insectes. Ils sont plus nombreux avant l'orage. » Si tu t'attardes, tu seras dévoré.
Je n'en ai besoin qu'un instant.
Elle inspira et il sentit qu'elle était anormalement agitée. Elle semblait presque craintive.
Parangon, tout à l'heure tu as proposé de partager ton trésor avec nous. J'ai trouvé quelque chose que je désire éperdument posséder.
Et il se tourna pour la regarder.
Elle était en chemise de nuit, une ample tunique qui tombait sur ses pieds nus. Ses cheveux clairsemés flottaient sur ses épaules. On voyait encore les brûlures des serpents, des taches blanches sur sa peau dorée. Le temps peut-être effacerait ses cicatrices. En tout cas, il aimait à le croire. Ses yeux étincelaient à la clarté de la lanterne. Il se surprit à lui rendre son sourire.
« Alors ?» « C'est quoi ce trésor que tu dois absolument posséder ? De l'or, de l'argent, des bijoux des anciens ?»«
C'est ça. »
Elle se pencha sur un sac de toile grossière à ses pieds, l'ouvrit et plongea le bras à l'intérieur. Elle en retira un anneau de bois sculpté. Elle le tournait dans ses mains avec une quasi-vénération. Puis, hardiment, elle s'en couronna et leva les yeux vers lui.
Cherche dans tes souvenirs de dragon, si tu le peux, pour moi. Te souviens-tu de ça?
Il la regarda en silence, elle lui rendit son regard, elle attendit,
La couronne était ornée de têtes d'oiseaux. Non, de poulets.
Et il fronça drôlement un sourcil.
À regret, elle ôta la couronne et la lui tendit. Il la prit délicatement. Du bois sculpté. Il secoua la tête. L'or et l'argent, les pierres précieuses, les objets d'art, il lui avait offert la fine fleur des richesses des rivages maudits. Qu'avait donc choisi le charpentier?
Du bois.
Elle tenta encore de susciter une réaction en lui. Il y avait de la dorure dessus autrefois. Tu vois, on distingue encore un peu d'or dans les détails des têtes de coq. Et il y a l'emplacement pour les plumes de la queue qui ont pourri depuis longtemps.
Je me souviens,
dit-il hésitant.
Mais c'est tout. Quelqu'un l'a porté.
Qui ? Elle insistait avec ferveur. Il lui rendit la couronne. Elle secoua ses cheveux qui lui voilaient les yeux, puis reposa la couronne de coq sur sa tête.
Quelqu'un comme moi ?
Demanda-t-elle pleine d'espoir.
Oh !
Il s'interrompit, s'efforçant de se souvenir d'elle.
Je suis désolé,
dit-il enfin en secouant la tête.
Elle n'était pas du peuple des anciens. C'est tout ce que je peux me rappeler.
La femme qu'il avait portée était pâle comme le lait, pas du tout comme ambre.
Ce n'est pas grave,
assura-t-elle rapidement, mais il sentit sa déception.
Si cela ne te fait rien, j'aimerais bien la voir.
Bien sûr. Les autres y ont trouvé à redire?
Ils n'en ont pas eu l'occasion. Je ne le leur ai pas demandé,
fit-elle d'un air penaud. Elle ôta la couronne. Ses doigts et ses yeux caressèrent amoureusement l'objet sculpté.
C'est à toi,
confirma Parangon.
Prends-la avec toi, où que tu ailles.
Ah, alors tu as deviné que je m'en allais.
En effet, tu ne resteras même pas avec moi jusqu'au milieu de l'été, c'est-à-dire quand je reviendrai ici pour être près des dragons au moment de l'éclosion.
Elle suivait du doigt les détails des têtes sculptées.
Je suis tentée, peut-être, mais en fin de compte, je crois que je dois retourner vers le nord. J'ai des amis là-bas, je ne les ai pas vus depuis longtemps.
Elle baissa la voix.
J'ai un doute, je ne tiens plus en place. Je crois qu'il faut que j'intervienne encore un peu dans leur vie.
Elle eut un rire faussement léger.
J'espère que je me débrouillerai mieux avec eux que je ne l'ai fait ici.
Elle se troubla. Elle escalada soudain la lisse en disant doucement
« Prends-moi ».
Il tendit le bras par-dessus son épaule pour lui présenter sa main droite. Elle y grimpa et il se retourna pour contempler la jungle impénétrable. Il lui était plus facile de se détourner de la lumière, de regarder dans le noir, plus reposant. Il déplaça prudemment les bras pour les croiser sur sa poitrine. Aussi confiante qu'une enfant, elle y était assise et s'adossait à lui amicalement. Autour d'eux, les insectes stridulaient. Elle balançait ses jambes nues. C'était toujours elle qui osait poser les questions que les autres ne formulaient pas. Ce soir, elle en avait une.
« Comment sont-ils morts, tous ?»
Il savait exactement ce qu'elle voulait dire. Inutile de prétendre le contraire. Inutile de continuer à garder le secret. C'était presque agréable de le partager avec quelqu'un.
Le bois sorcier. Kenith avait conservé un bout extrait de mon visage. Une de ses corvées consistait à aider à la cuisine. Il l'a fait bouillir avec la soupe. Presque tout l'équipage d'Ygrotte est mort de ça.
Il la sentit tressaillir. Il essaya de lui expliquer.
Il n'a fait que terminer ce qu'Ygrotte avait commencé. Les hommes s'étaient mis à mourir sur le navire.
Ygrotte avait fait donner la grande cale à deux hommes pour insubordination. Ils se sont noyés tous les deux. Deux autres sont passés par-dessus bord pendant une nuit de tempête. Il y eut un accident stupide dans le gréement. Trois sont morts. Nous avons conclu qu'Ygrotte était derrière tout ça. Il avait sans doute l'intention de se débarrasser de tous ceux qui savaient où était caché le trésor, y compris Kenith.
Il se força à desserrer les mains.
Il fallait qu'on le fasse, tu comprends, pour sauver la vie de Kenith.
Ambre déglutit. Elle posa quand même la question.
Et ceux qui ne sont pas morts à cause de la soupe?
Parangon respira.
Kenith les a balancés par-dessus bord. La plupart étaient trop mal en point pour opposer beaucoup de résistance. Trois, je crois, ont réussi à amener un canot et à s'enfuir. Je doute qu'ils aient survécu.
Et Ygrotte?
La jungle paraissait noire et paisible. Il y avait du mouvement à l'extérieur du cercle de lumière. Des serpents, des oiseaux de nuit, des petits animaux nichant dans les arbres, à fourrure et à écailles. Beaucoup de choses vivaient et bougeaient dans le noir inextricable.
Kenith l'a battu à mort, dans la cale. Tu as vu les marques en bas, les empreintes d'un homme rampant.
Il respira.
C'était juste, Ambre. Ce n'était que justice.
Elle soupira.
Votre vengeance à tous les deux, pour les fois où il avait battu Kenith à mort.
Il approuva d'un hochement de tête au-dessus d'elle.
Il l'a fait deux fois. Une fois, le gamin est mort sur le pont. Mais je ne pouvais pas le laisser s'en aller. Je ne pouvais pas. Il était tout ce que j'avais. Une autre fois, recroquevillé dans sa cachette de la cale, il est mort lentement. Il avait une hémorragie interne. Il devenait si froid. Il appelait sa mère.
Parangon soupira.
Je l'ai gardé avec moi. J'ai refoulé la vie en lui. J'ai forcé son corps à se rétablir de lui-même, du mieux que je pouvais. Puis, je l'ai remis dans son corps. Alors je me suis demandé s'il était resté assez de lui-même pour constituer un être complet. Mais je l'ai fait. C'était égoïste. Je ne l'ai pas fait pour Kenith. Je l'ai fait pour moi, pour ne pas demeurer seul.
Il était vraiment autant toi que lui-même?
Parangon faillit glousser.
Il n'y avait pas ce genre de frontière entre Kenith et moi.
Et c'est pour cela qu'il fallait que tu le récupères?
Il ne pouvait pas mourir sans moi. Pas plus que je ne pouvais vraiment vivre sans lui. Il fallait que je le reprenne. Tant que je n'étais pas complet, j'étais vulnérable. Je ne pouvais me fermer hermétiquement aux autres. Chaque fois qu'on versait le sang sur mon pont, c'était une torture.
Oh!
Durant un long moment, elle parut se contenter d'en rester là. Elle s'adossa à lui. Sa respiration devint si profonde, si régulière qu'il la crut endormie. Derrière lui, sur le pont, les insectes s'écrasaient sur la lanterne. Il entendit ses moilles faire lentement sa ronde. Il s'arrêta près de la lumière.
« Tout va bien ?»
chuchota-t-il à Parangon à mi-voix.
« Tout va bien, »
répondit le navire. Il en était venu à apprécier ses moilles. L'homme savait s'occuper de ses propres affaires. Ses pas s'éloignèrent.
« Tu ne t'es jamais demandé ?»
fit Ambre à voix basse.
À quel point tu as changé le monde? Pas seulement en gardant Kenith en vie, par ta simple existence.
En étant navire au lieu d'être dragon.
Tout ça.
Un léger mouvement de la main engloba toutes ses vies.
J'ai vécu,
dit-il simplement.
Et je suis resté en vie. J'en avais le droit comme n'importe qui, j'imagine.
« Absolument.
Elle remua, puis se coucha sur ses bras et leva les yeux. Il suivit son regard, mais ne vit que l'obscurité. Les nuages étaient lourds au-dessus des arbres.
« Nous avons tous un droit sur notre vie. Mais si, par défaut d'orientation, nous empruntons la mauvaise voie, prends Yéma, par exemple. S'il était promis à une existence différente, si, à cause de quelque chose que j'aurais omis de faire ou de dire, il devenait roi des îles des pirates alors qu'il était destiné à mener une vie d'étude et de contemplation. Un homme qui, au lieu de passer sa vie cloîtrée dans la réflexion, devient roi à la place. Et il ne lui viendra jamais de profondes méditations spirituelles, elles ne seront jamais communiquées au monde. »
Parangon secoua la tête.
« Tu te tracasses trop. »
Ses yeux suivirent un papillon de nuit. Il voltait avec ardeur, désireux de se heurter à la lanterne jusqu'à en mourir.
« Les humains ont une vie si brève. Ils ont peu d'incidents sur l'univers. Yéma ne sera donc pas prêtre. Cela n'a probablement pas plus d'importance que si un homme destiné à être roi devenait un sage reclus. »
Il la sentit frissonner.
« Oh, navire !»
dit-elle sur un ton de reproche.
« C'était censé me réconforter. »
Il la tapota délicatement comme un père apaise son enfant.
« Console-toi avec ça, Ambre.
Tu n'es qu'un petit être à la vie éphémère. Il faudrait être fou pour croire qu'on peut changer le cours du monde. »
Elle ne répondit pas, puis éclata d'un rire tremblant.
« Oh, Parangon, en cela tu as raison plus que tu ne le crois, mon ami. »
« Contente-toi de ta vie, mon ami, et vis-la bien. Laisse les autres décider par eux-mêmes de la voie qu'ils vont suivre. »
Elle leva la tête et fronça les sourcils.
« Même quand tu vois, avec une lucidité absolue, qu'ils se trompent, qu'ils vont se faire du mal ?»«
On a peut-être droit à ces souffrances, »
hasarda-t-il. Il ajouta à contre-cœur,
« Peut-être même en a-t-on besoin. »«
Peut-être, »
concéda-t-elle sur un ton malheureux.
« Remonte-moi, s'il te plaît. Je crois que je vais aller me coucher et réfléchir à ce que tu m'as dit, avant que la pluie et les moustiques ne me découvrent. »
Althea étouffait dans son cauchemar. Elle n'était guère avancée de savoir qu'elle rêvait. Impossible d'y échapper. Elle ne pouvait pas respirer, et il était sur son dos, il la maintenait, il lui faisait mal, il lui faisait mal. Elle voulait crier, mais elle en était incapable. Si seulement elle pouvait crier, elle se réveillerait, mais le cri ne sortait pas, ses cris étaient enfermés à l'intérieur d'elle-même. Le rêve se modifia. Parangon se dressa soudain au-dessus d'elle. Il était un homme, grand, aux cheveux bruns, l'air grave. Il la regardait avec les yeux de Kenith. Elle se tapit en tremblant. Il parla d'une voix peinée.
« Althea, ça suffit. On ne peut plus supporter cela, ni les uns ni les autres. Viens me voir, » ordonna-t-il. « En silence, tout de suite. »
« Non !»
Elle sentit qu'il la tirait et elle résista. La compréhension qu'elle lisait dans ses yeux la menaçait. Personne ne devait comprendre aussi parfaitement ce qu'elle ressentait.
« Si, »
dit-il alors qu'elle résistait.
« Je sais ce que je fais. Viens me voir. »
Elle ne pouvait pas respirer. Elle ne pouvait pas bouger. Il était trop grand, trop fort. Mais elle continuait à se débattre. Si elle se débattait, si elle luttait, comment pouvait-elle être coupable ?
Ce n'était pas ta faute. Détache-toi de ce souvenir. Ce n'est pas ici, maintenant. C'est fini, c'est passé. Tu en as terminé avec ça. Tais-toi, Althea. Tais-toi. Si tu cries, tu vas te réveiller. Pire, tu vas réveiller tout l'équipage.
Alors, ils apprendraient tous sa honte.
Non, non, non. Ce n'est pas ça du tout. « Viens me voir, tu as quelque chose qui m'appartient. »
La main s'était retirée de sa bouche. Le poids s'était retiré de son corps, mais elle était toujours enfermée en elle-même. Alors subitement, elle se mit à flotter librement. Elle était ailleurs, dans un endroit froid, venteux, obscur. C'était un endroit très isolé. La compagnie de n'importe qui valait mieux que cette solitude.
« Où es-tu ? »
appela-t-elle, mais elle ne fit que chuchoter.
« Ici.
Ouvre les yeux. »
Par une nuit de tempête, il se tenait sur le gaillard d'avant. Le vent qui se levait secouait les arbres et de petits morceaux de débris tombaient en pluie fangeuse. Parangon s'était tourné pour la regarder. Elle ne distinguait pas ses traits, mais elle entendait sa voix.
« Voilà qui est mieux, » dit-il sur un ton rassurant. « Il fallait que tu viennes me voir ici. J'ai attendu, pensant que tu finirais par venir de toi-même, mais tu n'es pas venu. Et ceci a bien assez duré pour nous tous. Je sais maintenant ce que je dois faire. »
La figure de proue marqua une pause. Les paroles qui suivirent furent plus âpres.
« Tu as quelque chose qui m'appartient. Je veux le récupérer. »
« Je n'ai rien à toi. »
prononça-t-elle les mots, ou se borna-t-elle à les penser?
« Si, c'est le dernier morceau. Que ça te plaise ou non, il faut que je l'aie pour être complet, pour que tu sois complète aussi. Tu crois que c'est à toi, mais tu te trompes. »
Il détourna les yeux.
« Cette souffrance m'appartient de droit. »
La pluie s'était mise à tomber, glaciale. Elle l'entendit d'abord dans les arbres au-dessus. Les gouttes traversèrent le dais doucement au début, puis le vent qui se levait fouetta les fêtes des arbres qui lâchèrent leur poids glacé, et ce fut le déluge. Althea était déjà engourdie par le froid. Parangon continua à parler tendrement.
« Rends-la-moi, Althea. Tu n'as aucune raison de la garder. Ce n'était même pas à lui. Il ne pouvait pas te la donner. Tu comprends cela ? Il te l'a transmise. Il a essayé de se débarrasser de la souffrance en la donnant, mais elle n'était pas à lui. Elle aurait dû rester avec moi. Je te la reprends maintenant. » Tu n'as qu'à la lâcher, c'est tout. Je te laisse le souvenir, car malheureusement il t'appartient vraiment, mais la blessure est ancienne, transmise de l'un à l'autre, comme une maladie contagieuse. J'ai décidé d'y mettre un terme. Elle me revient maintenant et restera avec moi. »
Elle résista un moment, s'y raccrochant avec force. « Tu ne peux pas me la prendre. C'était tellement horrible. C'était tellement moche. Personne ne comprendrait. Personne n'y croirait. Si tu reprends la souffrance, tu transformeras ce que j'ai supporté en mensonge. »«
Non, non, ma chérie. Je la transformerai seulement en souvenir, à la place de quelque chose que tu revis continuellement dans ta tête. Laisse-la dans le passé. » « Cela ne peut pas te faire de mal aujourd'hui, je ne le permettrai pas. »
Il tendit vers elle sa grande main. Apeurée mais incapable de résister, elle y posa sa petite main. Il poussa un profond soupir.
« Rends-la-moi, » dit-il doucement.
Elle eut l'impression qu'on lui retirait une écharde profondément enfoncée. Il y eut la douleur de l'extraction, puis la brûlure propre du sang frais qui s'écoulait. Quelque chose qui était solidement agrafé en elle se détacha soudain. Il avait raison. Elle n'était pas obligée de s'accrocher à sa souffrance. Elle pouvait la lâcher. Le souvenir était toujours là. Il n'avait pas disparu, mais il avait changé. C'était un souvenir, une chose du passé. Cette plaie se refermerait et cicatriserait. Le mal qu'on lui avait fait était passé. Elle n'était pas obligée de le garder comme faisant partie d'elle-même. Elle pouvait se permettre de guérir. Ses larmes se dissolvaient dans la pluie qui ruisselait sur son visage.
Althea !
Elle ne tressaillit même pas. La pluie incessante lavait la nuit dans le ciel, la délavait dans une aube grise qui pénétrait à peine le couvert des arbres. Althea se tenait sur le gaillard d'avant, les mains tendues vers la semi-obscurité, sous la pluie battante. Sa chemise de nuit était collée sur son corps. En la maudissant et en se traitant d'imbécile, Brashen traversa le pont comme une flèche, la saisit à l'épaule et la secoua.
« Tu as perdu la tête ? Rentre !»
Elle porta une main à son visage, les yeux fermés, paupières serrées en une grimace. Puis, elle se jeta violemment sur lui et se cramponna.
« Où suis-je ? »
demanda-t'elle, ahurie.
« Dehors, sur le pont. Somnambule, je crois. Je me suis réveillé et tu avais disparu. Rentrons !»
La pluie inondait son dos nu et plaquait ses culottes de coton sur son corps. Les cheveux d'Althea étaient des queues de rat et ruisselaient sur sa figure. Elle s'agrippait à lui, frissonnante, sans faire aucun effort pour échapper au déluge.
« J'ai fait un rêve, »
dit-elle, désorientée.
« C'était si réel, l'espace d'un éclair, et maintenant il s'est envolé. Je ne m'en souviens pas du tout. »
« C'est comme ça, les rêves. Ils vont et viennent, ils ne veulent rien dire. »
Malheureusement, il parlait d'expérience. Avec un grondement, la tempête redoubla de fureur. La pluie diluvienne sifflait sur l'eau, un sifflement qui parvenait jusqu'à eux. Elle ne bougeait pas. Elle leva la tête vers lui en clignant des yeux voilés de pluie.
« Brashen,
je suis en train de me noyer ici !»
déclara-t-il avec impatience, et il la souleva brusquement dans ses bras. Elle posa la tête sur son épaule. Elle ne protesta pas quand il lui cogna la tête dans la coursive étroite. Une fois dans la chambre, il referma la porte d'un coup de pied et remit Althea sur ses pieds. Il repoussa ses cheveux en arrière et sentit un filet d'eau fraîche lui couler le long du dos. Elle restait là, à scier des yeux. La pluie dégouttait de son menton et de ses cils. L'étoffe trempée de sa chemise de nuit collait aux courbes de son corps qui le tentèrent. Elle avait l'air si hébétée qu'il eut envie de la prendre dans ses bras et de l'étreindre. Mais elle ne le voudrait pas. Avec effort, il se détourna.
« C'est bientôt le matin, je vais me changer, »
dit-il sur un ton bourru. Il entendit le son mouillé de la chemise de nuit tombant par terre et les petits bruits qu'elle faisait en fouillant dans son coffre à vêtements. Il ne se retournerait pas. Il ne se torturerait pas. Il avait appris à se maîtriser. Il venait de sortir une chemise propre de son placard quand elle l'enlaça par derrière. Là où elle se pressait contre lui, il sentait sa peau encore humide. «
Je ne trouve plus rien de propre, »
dit-elle à son oreille. Et il s'immobilisa, paralysé. Son haleine était chaude.
« Je crois bien que je vais devoir t'emprunter quelque chose. »
Le baiser sur sa nuque le fit frissonner et fit mentir ses paroles alors qu'elle lui prenait sa chemise et qu'elle la jetait par terre derrière eux. Il se retourna lentement, toujours dans les bras d'Althea, pour lui faire face et scruter son sourire. Son humeur enjouée le renversait. Il avait presque oublié qu'elle pouvait être ainsi. La hardiesse avec laquelle elle exprimait son désir lui fit battre le cœur. Ses seins frôlaient sa poitrine. Il posa une main sur sa joue et vit une ombre d'hésitation passer sur son visage. Il retira immédiatement sa main. La consternation effaça le sourire d'Althea. Des larmes lui vinrent soudain aux yeux.
« Oh non !»
supplia-t-elle.
« Je t'en prie, n'abandonne pas !»
Elle se décida. Elle lui prit la main, la posa sur son visage. Les mots s'échappèrent.
« Il m'a violé, Brashen, Kenith. J'ai essayé de surmonter. Tout le temps que je te voulais. dit-elle d'une voix brisée. « Seulement toi, oh Brachen !»
L'émotion étouffa ses paroles. Elle se pressa contre lui, enfouissant le visage dans sa poitrine.
« Je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas fini entre nous. »
Il avait compris. À un certain niveau, il savait déjà.
« Tu aurais dû m'en parler. »
Cela résonnait comme une accusation.
« J'aurais dû deviner. »
Elle secoua la tête.
« On peut recommencer ? »
demanda-t-elle.
« En allant lentement, cette fois-ci ?»
Il éprouva une foule d'émotions.
Une fureur meurtrière envers Kenith. De la colère envers lui-même pour ne l'avoir pas protégé. De la peine qu'elle ne lui ait pas parlé plus tôt. Comment allait-il venir à bout de tout cela ?
Alors il comprit ce qu'elle voulait dire par « recommencer ». Il respira un bon coup. Avec effort, il écarta toute pensée. « Je crois qu'il va falloir », répondit-il gravement. Il se résigna à la patience. Il scruta son visage. « Tu aimerais avoir cette chambre à toi toute seule pour un temps ? Jusqu'à ce que tu vois les choses différemment ? Je sais qu'il faudra aller lentement. »
D'une secousse, elle chassa ses larmes. Le sourire qu'elle lui adressa avait l'air plus sincère. « Oh, Brachen, pas si lentement que ça. Je voulais dire qu'on devrait recommencer maintenant. Avec ça. »
Elle leva la tête et lui tendit ses lèvres. Il l'embrassa très doucement. Il fut stupéfait de sentir qu'elle dardait sa langue. Elle prit une respiration hachée.
« Tu devrais enlever ces culottes mouillées !»
fit-elle sur un ton de reproche. Ses doigts glacés tâtonnèrent à sa ceinture. Parangon renversa le visage vers le ciel. La pluie coulait sur ses yeux fermés et dans sa bouche. Le soleil caressait le jour et dissipait plus sûrement le froid de l'hiver. Il cligna les yeux en les rouvrant et sourit. La pluie crépita puis s'arrêta, un oiseau jeta au loin un tri interrogateur. Plus proche, un autre lui répondit. La vie était belle. Peu après, il sentit la main d'Ambre sur sa lisse. À côté, elle avait posé une chope de liquide chaud.
« Tu es bien matinal ?»
Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et la surprit en train de l'examiner attentivement. Elle souriait.
« Je me suis réveillée baignée d'un curieux bien-être. »«
Vraiment ?»
Il sourit avec suffisance, puis reporta les yeux vers le ciel.
« Je crois que je connais cette sensation. Ambre, je crois que ma chance est en train de tourner. »«
Et celle de tout le monde avec ?»«
Peut-être bien. »
Il réfléchit brièvement.
« Tu te rappelles notre discussion de cette nuit ?»«
Oui. »
Elle attendit.
« J'ai changé d'avis. Tu as raison de vouloir retourner vers le nord. »
Il regarda autour de lui les merveilles du monde printanier.
« C'est bon de mettre les gens sur le droit chemin. »
Il lui sourit de nouveau.
« Va, cap au nord !»